Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Présence et formation religieuse et nature sauvage. Au programme, le dépotoir et la grâce. Le cardinal à poitrine rose, l'oiseau au cœur scintillant et Dieu sans preuve. Bonne écoute!
Le dépotoir et la grâce, une chronique de Sabrina Di Matteo, parue le 25 janvier 2023 dans Présence, information religieuse. J'ai souvent eu de la difficulté avec le mot « péché », si décalé avec les sensibilités contemporaines, y préférant l'idée de « faute ». Mais à la lumière de la crise des abus qui perdurent, je préfère finalement péché, avec toute sa charge de mal originel et d'impuissance. Impuissance de la condition humaine, impuissance des institutions qui ne parviennent pas à se libérer du péché qui les imprègne. Je suis même une croyante qui a tendance à escamoter la dimension de la souffrance de Jésus, condamné, flagellé et crucifié, préférant le mystère de sa résurrection, où il a transcendé la douleur et la mort une fois pour toutes. Or, les témoignages et les dénonciations des personnes survivantes des abus physiques, sexuels, psychologiques ou spirituels me font voir d'un nouvel œil cette figure du Christ souffrant, qui est un frère pour celles et ceux dont l'humanité a été blessée. L'Église passe par un temps douloureux. Y aura-t-il une purification à son issue? Dans le dépotoir, trouverons-nous un peu de grâce? Catholiques désabusés. Combien de temps encore les catholiques devront-ils déchanter devant l'abysse de non-crédibilité qui s'est ouvert? Deuil et désillusion les habitent. Leur attachement à l'Église est meurtri. La tentation de quitter sur la pointe des pieds n'est pas loin. Et certains y ont déjà cédé, trouvant des réseaux hors Église pour vivre une fraternité et une cohérence qui semblent devenues déficitaires ou artificielles en Église. Les efforts de synodalité, d'évangélisation et la possibilité d'un réenchantement ont souvent le goût du vinaigre lorsque l'espoir des réformes par la hiérarchie se trouve aussi déçu. En effet, des médias révèlent que des cardinaux, des évêques, des monseigneurs, ceux-là même qui ont en main les leviers du changement, sont maculés d'accusations. Qu'il s'agisse d'avoir perpétré ou caché des abus, de s'être ingéré dans des processus, de se murer dans le silence. La transparence en prend un coup à chaque révélation. Tous les membres du clergé ne sont pas des abuseurs. Ce n'est même pas la question ici. Un poison systémique est bien présent. Et des ministres sans reproche en font aussi les frais. Toucherons-nous enfin le fond? Peut-être que la crise achèvera enfin ce modèle de l'Église de chrétienté qui n'en finit plus d'imploser. Réformer comment? En janvier 2023, à Lourdes, environ 250 journalistes et communicateurs catholiques se sont réunis pour les Journées François de Sales, organisées par la Fédération des médias catholiques français et le Dicaster pour les communications. Le thème « Comment se faire entendre des grandes voix catholiques répondent » a été l'occasion de faire dialoguer des professionnels des médias et des observateurs de plusieurs régions du monde en abordant notamment les enjeux d'une parole publique catholique et du courage journalistique face aux abus. Saint François de Sales, décédé il y a 400 ans, 22 décembre 1622, célébré par l'Église catholique le 24 janvier, est le patron des journalistes et des écrivains. Durant sa vie chevauchant les 16e et 17e siècles, en pleine effervescence de la réforme protestante et du mouvement catholique de la contre-réforme, François fut un auteur prolifique qui bénéficia d'ailleurs des débuts de l'imprimerie. Sermons, traités de spiritualité, lettres personnelles, il animait une réflexion publique et pastorale en vue du bien, de la charité. Le pape François lui consacre une lettre apostolique, Totum Amoris Est, qui souligne sa contribution féconde à l'Église lors d'une période de crise. Qu'en retenir dans le contexte actuel? Quelques réflexions de François de Sales peuvent éclairer la réforme nécessaire dans cette crise, ainsi que le rôle des médias. Il propose de se demander, dans chaque circonstance de la vie, où se trouve le plus grand amour. Quelle est la motivation du travail d'enquête et de reportage concernant les abus? Il est question de présenter les faits, de faire la vérité. Ce service des faits et de la vérité, pour autant que l'on puisse s'en approcher, est pour le bien commun. Il peut être accompli par une presse catholique spécialisée tout autant qu'une presse indépendante ou généraliste. Ce bien commun n'est-il pas, en somme, une charité, c'est-à-dire un souci et un amour du prochain? Dans le cas des abus, le journalisme, qui est motivé par le bien des victimes et non par un acharnement simpliste contre l'Église, est juste. C'est la charité et l'amour qui donnent le prix à nos œuvres, dit encore François de Sales. Signe des temps. Néanmoins, ne vous laissez pas pour cela de vous réformer, écrivait-il aussi, c'est-à-dire ne négligez pas de vous réformer. L'Église est gangrenée par un mal systémique qui produit le fruit pourri du contre-témoignage. Je ne doute pas que les journalistes rêvent d'un jour où il n'y aurait plus d'abus à couvrir en Église et dans d'autres milieux. L'énergie investie à enquêter, affronter des logiques protectionnistes, du déni ou des insultes, est considérable. Ce travail est noble et ne saurait se résumer à « tirer sur l'Église avec malice », comme certains semblent penser. Certes, des approches tendancieuses et spéculatives existent, tout comme il est, à l'opposé, des approches qui font le choix tacite de la complaisance. Cela ne rend pas plus service à l'Église et n'est pas cohérent avec le bien commun. Depuis le Concile Vatican II, l'idée de lire les signes des temps, signa temporum, est courante. Elle réfère au fait de discerner le travail de Dieu dans le monde, dans les événements et les prises de conscience qui conduisent à un progrès humain. Dans cette logique, la révélation des abus et ce travail de purification ne serait-il pas œuvre divine pour le bien de tous et surtout des plus vulnérables? Alliés de cet élan, journalistes et communicateurs contribuent à cette lecture des signes des temps qui est une exigence du bien et de la charité. Nous serions indignes des temps qui sont les nôtres si nous refusions ce travail de vérité. Au milieu du dépotoir, espérons trouver un peu de grâce. C'était Le dépotoir et la grâce, une chronique de Sabrina Di Matteo paru le 25 janvier 2023 dans Présence, information religieuse.
Le cardinal à poitrine rose, l'oiseau au cœur scintillant. Un texte d'André Cyr, paru dans l'édition Printemps 2021 de la revue Nature sauvage à la campagne. André Cyr, professeur titulaire d'ornithologie à l'Université de Sherbrooke pendant 30 ans, cofondateur du regroupement Québec Oiseau, conférencier et imitateur d'oiseaux, il a publié de nombreux articles scientifiques et de vulgarisation. Il a été durant 7 saisons l'expert ornithologue à l'émission 1-888 Oiseau de Radio-Canada. Les notes sifflées s'accumulent rapidement, roucoulées, rondelettes, descendant promptement en tire-bouchon d'un grand pin. C'est un cardinal à poitrine rose, mâle, qui vaillamment annonce le printemps. Tête et dos noirs, ventre blanc, croupion encore plus blanc et bien visible en vol, ainsi que des ailes parsemées de quelques taches blanches, lui confèrent fière allure. Or, c'est surtout ce gros cœur saillant sur la poitrine, en vérité plus rouge que rose, qui fait sa marque de commerce. Ce cœur, chez certains mâles, semble saigner en une petite traînée vers le bas. En vol, une nuance rosée sous les ailes est discernable. La femelle, plus sobre, est vêtue comme un bruant, avec des stries pâles marquant sa tête et ses ailes. Toutefois, sa taille et son bec nettement plus forts que celui du mâle lui donnent un air imposant. Le jeune de premier hiver affiche le dessous des ailes en jaune. Des habitudes qui changent. Nicheur en forêt, particulièrement dans les érablières ainsi que dans les sapinières à bouleau jaune, le cardinal à poitrine rose se rencontre dans le sud du Canada, des provinces maritimes jusque dans l'ouest et en remontant vers le nord-est de la Colombie-Britannique. Il y a plusieurs années, ce cardinal ne fréquentait que les forêts. Maintenant, il profite des graines de tournesol offertes aux mangeoires. Un printemps, il en est venu chez moi jusqu'à 8. Des attroupements de ce genre au poste d'alimentation semblent se multiplier. Pour peu qu'on habite à faible distance d'un boisé, l'espèce est assez assidue. Souvent de fois, ce cardinal visite les mangeoires au crépuscule et même juste avant la noirceur. Mâcher la graine, toute une technique. Une fois une graine saisie, les écales pendent parfois quelques instants aux côtés de son bec avant que le germe soit bien dégagé et avalé. Il lui arrive aussi de l'échapper, mais il n'en fait pas grand cas, s'en servant immédiatement une autre. Graine après graine, aucune ne lui résiste. La mâchoire est plus mobile qu'il n'y paraît. L'oiseau ne fait pas qu'écraser la graine dans son bec. La mâchoire inférieure s'agite d'avant en arrière et d'un côté à l'autre afin d'y imprimer une force de cisaillement servant à déchiqueter la graine. Celle-ci est fréquemment placée ou coincée dans l'encoche le long de l'arête de la mandibule supérieure du bec, la maxille, en vue d'en faciliter la cassure. Ces mouvements latéraux du bec se traduisent par des mimiques à faire rire, créant des physionomies qui ressemblent à un bâillement, la bouche croche ou encore à une moue avec la mandibule inférieure plus allongée que la maxille. Les muscles à la hauteur de la moustache se contractent et se relâchent pendant que les plumes de la gorge accompagnent le mouvement de la déglutition. La prochaine fois qu'un cardinal à poitrine rose viendra souper dans vos mangeoires, observez cette parade qu'entame le plumage entourant le bas du bec. La technique vaut la peine d'être admirée. À la mangeoire, le cardinal à poitrine rose donne quelquefois l'impression de froncer les sourcils devant des compétiteurs. Quelques plumes hirsutes sur le dessus de la tête et sur les côtés font office d'artifice afin d'intimider les autres oiseaux. Le nid est constitué de branchettes lâches et aménagé dans un arbre ou un arbuste. Du dessous, on peut même voir au travers les 2 à 5 œufs ou les oisillons. Attention, le dérangement provoque facilement l'abandon du nid, surtout si la couvaison est peu avancée. L'ornithologue américain Roger Torrey Peterson a écrit dans son guide désormais célèbre que le cardinal à poitrine rose fredonne tel un merle d'Amérique ayant suivi des cours de chant. Il est possible, en effet, de confondre la turlute de ces deux espèces, mais un auditeur expérimenté saura aisément faire la différence. Le chant de ce cardinal évoque également celui du piranga écarlate, si ce n'était le zézément de ce dernier. Les arbres faisant obstacle au son et modifiant leur voix selon la distance qui les sépare l'un de l'autre, ces deux oiseaux se méprennent parfois eux-mêmes sur leur identité et se répondent réciproquement. C'était le cardinal à poitrine rose, l'oiseau au cœur scintillant. Un texte d'André Cyr, paru dans l'édition Printemps 2021 de la revue Nature sauvage à la campagne.
Dieu sans preuve. Une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 24 avril 2023 dans Présence, Information religieuse. Y a-t-il encore quelqu'un qui pense vraiment qu'on peut prouver l'existence ou la non-existence de Dieu grâce à la science? Il semble bien que oui, si on se fie au succès du livre « Dieu, la science, les preuves » Guy Trédaniel, 2021, des ingénieurs français Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassise. La thèse de cet ouvrage est résumée par ce dernier, aussi diplômé en théologie, dans un entretien au Figaro le 24 février 2023. Il vaut la peine de la citer longuement. Sur le fond, explique-t-il, l'épreuve classique et parfaitement valable de l'existence de Dieu qui proviennent de la philosophie et de la révélation sont aujourd'hui complétées par les extraordinaires découvertes scientifiques des 100 dernières années qui concourent à démontrer que notre univers a eu un début absolu et qu'il est le fruit d'un réglage extrêmement fin sans lequel toute vie complexe aurait été impossible. Or, s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés comme Einstein l'a montré, c'est donc que la cause de cette émergence est non temporelle, non spatiale et non matérielle, qu'elle a eu la puissance de tout créer et qu'elle a aussi tout réglé, ce système, avec mesure, nombre et poids. Comme le dit la Bible, livre de la sagesse, Chapitre 11, verset 20. Je le dis tout net. Cette preuve ne me convainc pas du tout. D'abord, si on en sait plus aujourd'hui qu'hier sur le début de l'univers grâce au modèle du Big Bang, bien des mystères demeurent néanmoins quant au temps zéro de toute l'histoire. Par conséquent, on peut, par une opération mentale logique, déduire qu'il faut bien une cause absolue à l'univers, mais on ne fait plus de la science en donnant le nom de Dieu à ce mystère. On croit. Convient-il, demande l'ex-dominicain et historien des sciences Jacques Arnoux, dans le même entretien au Figaro, de combler notre ignorance en recourant à un grand programmateur, à un esprit intelligent, à un créateur? C'est faire de Dieu, selon l'expression courante, le moyen de boucher les trous laissés par la recherche scientifique. C'est surtout lui faire courir le risque de se retrouver enterré par une révision du modèle actuel, voire par son remplacement. Car ainsi va la science. L'évidence devrait s'imposer. La science et la foi sont deux domaines distincts. À tenter de les amalgamer, de les faire concorder, on trahit l'un et l'autre. Prenons les miracles, par exemple. Ils ne sont des preuves de Dieu que pour les croyants. Les autres y voient, de façon légitime, des phénomènes inexpliqués. Dire « Dieu » devant ce qui échappe à notre compréhension, ne prouve rien sinon qu'on a la foi. Arnoul contre le concordisme. Dans « Dieu n'a pas besoin de preuves », Albin Michel 2023, Arnoul s'élève contre la tentation concordiste, qui fait dire à la science ce qu'elle ne peut pas dire, Dieu existe, et qui fait reposer la foi sur un faux savoir. La précision de l'horloge de l'univers est éblouissante, certes, mais pour en conclure à un Dieu créateur, il faut nécessairement passer par la foi. La première n'est pas une preuve du second, tout comme l'existence du mal dans le monde ne prouve pas que Dieu soit une illusion. Dieu, soyons très clairs, est l'objet de la foi, pas celui de la science. On aura beau recouvrir la tête de moines bouddhistes, de capteurs, pour comprendre ce qui se passe dans leur cerveau lors de séances de méditation, on ne prouvera pas par là l'existence du divin, même si on constate des états neuronaux étonnants. On apprendra peut-être ce qui se passe dans le cerveau d'un humain qui pense que Dieu ou la transcendance existe, mais on n'apprendra rien sur Dieu lui-même, qui évidemment dépasse, s'il existe, ses manifestations. Ce que ces expériences illustrent, conclut Arnoul, c'est que l'être humain est fait pour Dieu, ou plus exactement, pour le sentiment religieux. Elles ne nous disent pas si Dieu est une réalité ou une illusion. À cette étape, il revient à la foi de trancher. S'il est souvent stimulant et passionnant, l'essai de Jacques Arnoul déçoit malheureusement un peu. Le penseur ne manque pas d'érudition et de style, mais son propos ne brille pas toujours par sa finition. Chacune de ses phrases est claire, mais le déroulement de son argumentation comporte du flou. On saisit aisément l'esprit d'ensemble, mais le discours avance par sauts plus que par étapes, ce qui nuit à la clarté de la thèse. Vous écoutez « Dieu sans preuve », une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 24 avril 2023 dans « Présence, information religieuse ». Le Noma de Stephen Jay Gould. Sur la même question, c'est-à-dire sur les rapports entre la science et la religion et sur la tentation du concordisme, le livre du biologiste américain Stephen Jay Gould, 1941-2002, « Et Dieu dit que Darwin soit ». Point 2013, demeure la référence indépassable. Plaidant pour la reconnaissance de l'égale valeur des deux domaines, qu'il appelle des magistères, aussi nécessaires l'un que l'autre à toute existence humaine accomplie, Gould insiste sur le fait qu'ils restent distincts quant à leur logique et entièrement séparés quant à leur style de recherche. La science, note-t-il, s'intéresse aux faits et formule des théories quant à leur fonctionnement. La religion, quant à elle, se penche sur les significations ultimes et sur les valeurs morales. Il est essentiel de ne pas les amalgamer afin d'éviter toute confusion. C'est le principe du noma, c'est-à-dire le non-empiètement des magistères. Selon Gould, Darwin, son héros, est un modèle du genre. Il savait que la nature ne nous offre absolument aucun enseignement moral, qu'il n'y a pas de sens inhérent à la nature et qu'il revient à chacun de chercher ce sens en un lieu qui est à la fois le plus impénétrable et le plus proche de nous, l'intérieur de notre être fragile. Or, si vouloir tirer un sens moral de l'étude de la nature est un non-respect du noma, certaines croyances religieuses en relèvent aussi. Si votre religion pose en dogme que la Terre a tout au plus 10 000 ans, elle ne respecte pas le noma non plus, car elle va sur le terrain des faits en contredisant une connaissance scientifique établie. Pour Gould, le noma s'impose comme un critère pour évaluer la validité d'une démarche. Se servir de la science pour établir que Dieu existe ou n'existe pas n'est pas plus pertinent que de contredire les connaissances scientifiques à partir de textes révélés. Dieu n'est pas scientifique, mais la science n'est pas divine. « Je suis agnostique », écrivait Gould, « car de fait, on ne peut pas trancher. » Il n'en conservait pas moins un grand respect pour la religion. S'il refusait fermement l'amalgame entre la science et la religion, il proposait néanmoins un modus vivendi empreint de sagesse. Or, de même que l'organisme a besoin pour subsister à la fois de nourriture et de sommeil, écrivait-il, aucune totalité ne peut se dispenser des apports variés de parties indépendantes. Il nous faut vivre la plénitude de l'existence en de nombreuses demeures, dans un voisinage qui devrait ravir tous les modernes partisans de la diversité. Ce livre, je vous le dis, est formidable, tant par le propos brillant que le style limpide et délicat. Je fais mienne la proposition du paléontologue. Je peux lire dans la même journée « Québec Science » et « Parabole », la revue de la Société catholique de la Bible, en me réjouissant que Dieu ait donné vie à Stephen Jay Gould. J'évite les mélanges, mais je ne me prive de rien. C'était « Dieu sans preuve », une chronique littéraire de Louis Cornelier, paru le 24 avril 2023 dans Présence, Information religieuse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.